comment dire, dire qu'on aime les animaux, c'est passer un petit peu pour un con-con. Et la meilleure preuve, c'est que en matière de podcast, le thème animaux fait partie de famille, enfants. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on raconte aux enfants pour s'endormir. Et c'est un vrai drame. En 2020, il y a un cap qui a été franchi dans l'histoire de l'humanité. L'ensemble de tout ce qu'on construit, nos bâtiments, mais aussi nos téléphones portables, le pull que tu portes, le micro avec lequel on enregistre, etc. La masse de tout ce qui est fabriqué, de tous les objets fabriqués par l'humain, de toute leur construction, dépasse la biomasse de tout le vivant. Invertébrés, c'est quand même fou d'avoir fait cette espèce de groupe animal fourre-tout avec tout ce qui n'a pas de vertèbre. Tu vois, c'est définir quelque chose en négatif. Moi, ce que j'écris dans le bouquin, et j'espère que ça fera sourire celles et ceux qui vont lire ça, c'est que comment vont nous définir les insectes ou les éventuels céphalopodes qui auront pris le relais de l'espèce humaine une fois qu'on aura réussi à flinguer toute la planète? Est-ce qu'ils nous auront défini comme inanténés, on n'a pas eu les antennes pour deviner ce qu'on allait faire, comme inharmonieux parce qu'on n'a pas réussi à vivre en harmonie avec ceux que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs du vivant, ou comme des insupportables, enfin bref.
Des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant, le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Un peu. Et surtout, l'envie de nous engager, nous aussi, en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante. Car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai quitté mon Beaujolais adoptif pour me rendre à Paris. En ce dimanche matin, j'avais rendez-vous avec Marc Mortelmans. Marc est journaliste, naturaliste, et il est connu pour être l'hôte du podcast Baleine sous gravillon et de ses trois petits frères Combat, Nomen et Petit Poisson deviendra podcast. Il anime également Mécanique du vivant sur France Culture. Nous nous rencontrons dans le cadre de la sortie de son premier livre pour en finir avec les idées fausses sur le monde vivant, des éditions de l'Atelier, disponibles en librairie depuis le 19 avril. Dans cet épisode, il sera question du vivant et non de nature. Car la nature, c'est celle qu'on repousse au second plan, en périphérie, de nos villes et de nos vies. Il s'agit d'une nature à la demande, un décorum pour nos balades du dimanche ou pour nos évasions lointaines de vacances. Là, la nature est recherchée, espérée, fantasmée. Une nature grandiose, abondante, colorée, source d'émerveillement et de respiration. Le reste du temps, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Un imaginaire primitif, arriéré, dangereux, cruel, vecteur de maladies, source de problèmes, qu'il vaut mieux contrôler avant qu'elle nous contrôle. Bah oui, après tout, pourquoi donc protéger cette fameuse nature quand on a de la nourriture à profusion, de l'eau potable en tournant le robinet, de la lumière en appuyant sur un bouton? Tout ça, c'est bien grâce à l'intelligence humaine et non à la nature, ça se saurait, pas vrai? Oui, nous avons bel et bien perdu le lien. Il y a pourtant l'amour presque universel des enfants pour les animaux, qu'on abreuve de lectures fantastiques et d'images colorées le soir avant de se coucher. Mais au moment de choisir un métier, une orientation pour la vie, il s'agit de devenir sérieux. Aimer les animaux, c'est un peu con-con à partir d'un certain âge. À mon époque, quand tu t'obstinais à aimer les animaux, c'était vétérinaire ou pas grand-chose d'autre. Alors évidemment, quand on découvre le travail de Marc Mortelmans, cet amoureux des animaux et du vivant, ça vient réveiller un vieux rêve d'enfant, cette envie d'œuvrer pour les animaux et le vivant sur ce joyau de planète Terre. Au début, tu te fais toujours surprendre. Tu te dis 3 épisodes sur les abeilles sauvages et je m'arrête. Et c'est comme ça que tu te retrouves une heure après en train de découvrir la sexualité incroyable des pucerons ou encore l'anatomie des rémantas. Les podcasts de Marc, c'est aussi puissant que l'algorithme Insta. Il crée des gouffres spatio-temporels dans lesquels on voyage, mais à la grande différence d'Insta où on peut par mégarde perdre des neurones au passage, quand on ressort des podcasts de Marc, on ressort toujours émerveillé et inspiré. Bref, vous l'avez compris, j'ai la chance de rencontrer Marc Mortelmans ce matin. Bonjour Marc. Et pour commencer, je laisse Marc se présenter.
Alors qui je suis, pour répondre à ta question, je suis un mec de 52 ans qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui est passionné du vivant depuis qu'il est môme, comme beaucoup de gens. Je parle de moi à la troisième personne. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'études différentes dans ma vie au grand désespoir de mes parents. J'ai commencé par faire l'agro, j'ai fait maths sup, maths spé, bio. Ensuite, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait un double diplôme d'allemand, culture d'un côté, langue de l'autre. J'ai fait de l'architecture, figure-toi. Et à la fin de tout ça, mes parents étaient vraiment désespérés car ils pensaient que je deviendrais président de la République, cosmonaute ou avocat, rien de moins. Enfin, en gros, j'étais une sorte de vagabond universitaire. Et au final, voilà, j'ai fait une école de journalisme. Et après, j'ai un peu bossé comme journaliste dans différents domaines. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite. Et une petite originalité de ma vie, et pour le coup, j'en suis fier parce que je l'ai choisi, c'est que de 30 à 40 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite à l'envers. J'ai décidé de parcourir le monde, beaucoup d'endroits, les montagnes, les océans, etc. Et de vivre la vie rêvée d'un retraité, mais de 30 à 40 ans, quand j'en avais la force, la foi, l'envie, les tripes, tout ce que tu veux. Et donc voilà, j'ai dit 52 ans, donc là ça fait quand même plus de 12 ans que je suis rentré à Paris, et j'ai fait 1000 choses encore. Et depuis le Covid, en fait, ma vie a changé, comme celle de beaucoup de gens. À la faveur du Covid, comme quoi à toute chose malheur est bon, eh bien je me suis dit que j'allais créer... que j'allais me recentrer, parce que j'ai plus eu de boulot. À l'époque, j'étais réalisateur de vidéos pour corporate, tu sais, des vidéos institutionnelles pour des entreprises, ce que j'aimais beaucoup faire. Et du coup, j'ai plus de boulot. Et donc, du coup, j'étais amené à complètement repenser ma vie, mon travail et beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est à la faveur de ça que j'ai créé Baleine sous Gravillon. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était l'aboutissement, finalement, de beaucoup de choses de ma vie. Parce que j'ai bossé comme prof de plongée. Tu vois, c'est drôle. Il aura fallu 50 ans pour que je fasse ce pour quoi je pense je suis fait. C'est-à-dire juste faire tout ce que je peux pour raconter ce vivant qui, moi, m'émerveille, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Tu l'as dit toi-même, et ton intro était très bonne. Dire qu'on aime les animaux, c'est passer un petit peu pour un con-con. Et la meilleure preuve, c'est que en matière de podcast, le thème animaux fait partie de famille-enfant. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on raconte aux enfants pour s'endormir. Et c'est un vrai drame, mais j'imagine qu'on va en parler à la suite.
Ce que j'avais envie de dire aussi en introduction, c'est que c'est Hugues Mouret, directeur scientifique de l'association Arthropologia, que j'ai eu la chance d'interviewer pour mon premier épisode, qui m'a donné cette chance incroyable de me lancer, qui nous a mis en relation. Je profite pour dire que vous avez co-créé ensemble une série de 12 épisodes de 15 à 20 minutes qui se dévorent sur les auxiliaires de culture. C'est passionnant, c'est très instructif et c'est disponible sur vos plateformes respectives à tous les deux. Rentrons dans le vif du sujet. Nous nous rencontrons donc dans le cadre de la sortie de ton premier livre, on rappelle le titre, Pour en finir avec les idées fausses sur le vivant, des éditions de l'Atelier, disponible en librairie depuis le 19 avril. Quelle était ton envie, ton objectif en écrivant ce livre ?
Alors, je dois dire que j'ai eu la chance de... Enfin, surtout depuis que je fais ces émissions à France Culture, je suis entre guillemets en pourparlers avec une douzaine d'éditeurs. Qui depuis que je fais Mécanique du vivant sur France Culture, m'ont contacté. Et donc, il y a plein de projets qui sont en cours. Et je dois dire que, c'est un peu comme le reste de la dizaine d'autres éditeurs, j'ai été contacté par Gaëlle, que j'embrasse à ce micro, donc la patronne des éditions de l'Atelier, qui m'a proposé de faire ce livre. Et je vais essayer de te la faire très courte. Elle a été un peu roublarde, et j'adore les gens roublards, malin, on va dire. C'est-à-dire qu'au départ, on devait faire ensemble un jeu de cartes à destination des enfants pour les écoles. Tu vois, au lieu de faire des Pokémon, en gros, faire des cartes qui racontent le vivant à destination de l'enseignement des enfants. Donc ça, c'est un des autres projets qui me tient à cœur, il est en cours. Et Gaëlle m'a dit, pour la sortie de ce genre de jeu, ça serait vraiment génial, à tout point de vue, que tu fasses aussi un livre. Et on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là, et vu qu'elle a une collection qui préexiste à ce livre, qui s'appelle justement « En finir avec les idées fausses sur », de manière assez naturelle, moi, la première proposition que je lui ai faite, c'est on pourrait faire « En finir avec les idées fausses sur le vivant ». Il y en a légion, il y en a des masses. Et pour moi, c'était aussi l'occasion, moi j'ai vu ça comme une occasion de balayer devant ma porte et de rectifier beaucoup de choses que je dis mal, que je raconte mal, que je sais mal. Et c'est peut-être un des aspects les plus importants de ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. C'est que, tu vois, je suis très heureux d'avoir mis dans l'introduction que moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas bardé de diplômes. Moi, je suis un curieux éternel qui cherche, qui se renseigne. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que justement, la plupart des gens ne sont pas assez curieux, je trouve. Moi, j'ai plein de défauts, mais j'ai pas celui de ne pas être curieux. Et ce que je vends, entre guillemets, c'est un mot horrible dans ce livre, c'est le fait justement d'être curieux et de vérifier par soi-même. Le livre finit par un chapitre sur les fakes, Et tu vois, je suis consterné de voir à quel point les fakes, mais qui sont énormes, enfin qui sont ridicules, qui sont grotesques, sont partagés des milliers de fois plus que tous les gens qui se donnent la peine d'écrire des trucs sérieux et tout, qui sont pratiquement jamais lus. Ou, donc ce livre, c'est un peu contre ça. C'est un peu pour dire réveillons-nous, soyons curieux, vérifions par nous-mêmes. Ce livre est une très modeste et très imparfaite aide pour ceux qui auraient cette démarche.
Tu le dis dans beaucoup d'interviews, nous sommes une société qui avons perdu le lien avec le vivant. Tu cites aussi beaucoup le commandant Cousteau avec cette phrase célèbre « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime ». Il y a 75 chapitres, idées fausses dans ton livre, que tu expliques, précises, réfutes, illustres. On retrouve ta patte, des chapitres courts, riches d'informations scientifiques, avec beaucoup d'illustrations du vivant. J'en ai sélectionné quelques-unes pour notre voyage de ce matin, avec cette invitation de reconnexion à l'émerveillement lié au vivant. Pour commencer, j'avais envie de replacer l'humain à sa juste place, si tu veux bien. Dans ton livre, tu parles de deux idées fausses, numéro 12 et 44, à savoir l'arbre est la meilleure représentation des liens de parenté entre les espèces et l'humain est au sommet de l'arbre de l'évolution. Peux-tu nous expliquer pourquoi il vaut mieux parler de buisson aujourd'hui et qui est Lucas ? Alors ça fait beaucoup de gros mots, mais tu vas tout nous expliquer.
Bien sûr, une des idées fausses à laquelle je m'attaque dans ce bouquin, c'est effectivement, pour le coup elle est très connue, c'est que pendant des siècles, on a représenté l'arbre du vivant précisément sous forme d'arbre, et guess what, tout en haut de l'arbre, il y avait la branche apicale, la plus haute, qui était l'homme, l'humain.
Écrit en majuscule.
Écrit en plus en majuscule, là où tout le reste est écrit en minuscule. Et donc, voilà, ça veut tout dire. Enfin, chacun comprend que, tu vois, il a fallu attendre Darwin, en 1859, avec la publication de son fameux bouquin de l'origine des espèces, pour que l'homme soit replacé en banlieue du vivant. Et donc, pour faire simple, qu'on commence à envisager le vivant plutôt comme un buissonnant, que comme un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branche plus haute qu'une autre. Et, en fait, le Lucas dont tu parlais, entre une amibe, une truite, toi, moi et un sapin, on a tous, c'est quand même fou, le même ancêtre commun qui s'appelle en effet Lucas, qui devait ressembler à quelque chose comme une bactérie, et qui signifie Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre universel commun à tout le vivant, qui lui-même n'est pas le tout premier vivant qui a existé. C'est juste celui dont on descend tous, dont tout le vivant descend, mais il y a sans doute eu d'autres formes de vie avant Lucas. Et le hasard et la nécessité, qui sont deux mots que j'aime bien, ont retenu Lucas. Mais ça aurait pu être autre chose. Tu vois, il y a beaucoup de hasard finalement dans toutes ces choses.
Tu dis dans le livre qu'il y a une représentation figurative artistique en 3D au Musée des Confluences de Lyon, où on voit clairement ces trois branches initiales, les archées, les eucaryotes et les bactéries. Et après, chaque branche se déploie ensuite en d'innombrables branches secondaires, tertiaires, etc. Et je vais m'empresser d'aller le voir, vu que j'habite au nord de Lyon.
Pas loin de chez Hugues Mouret.
Et oui.
Qu'on salue au passage.
On est voisins.
Salut mon Hugues.
Le vivant véhicule parfois cet imaginaire de survie, d'un monde sans pitié. On parle de loi de la jungle. Tu en parles dans ton livre avec l'idée fausse numéro 23, le grand moteur de la vie, c'est la compétition. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est en partie vrai, mais aussi très faux, et nous l'illustrer avec quelques exemples d'animaux, peut-être ?
Tout le monde a en tête cette histoire de compétition, tu sais, le struggle for life, la lutte pour la survie, la loi du plus fort, toutes ces choses, et donc qui s'illustre par la compétition. Mais en fait, les rapports entre les différentes espèces du vivant sont bien... Enfin, il y a bien d'autres modalités que ça. Et il y a un schéma qui les résume bien, c'est celui qui consiste à mettre... Si tu veux, il y a une ligne basale où, en gros, tout est négatif, c'est-à-dire il n'y a que des désavantages, et ça, c'est la compétition. Donc, tout en bas de cette échelle des interactions, tu as la compétition qui ne provoque que des désagréments pour une espèce A et une espèce B. Mais tu vois, quand tu as... Par exemple, ensuite, la relation suivante s'appelle l'amensalisme. Tu vois, et l'amensalisme, c'est par exemple quand tu écrases une fourmi sans même le savoir et surtout sans le vouloir. Donc toi, ça t'apporte rien. Donc là, on arrive à zéro, mais il y a un perdant, c'est la fourmi. Donc tu vois, ça, c'est l'amensalisme. Ensuite, il y a un truc qui n'existe pas dans le vivant ou alors que de manière théorique, c'est ce qu'on appelle le neutralisme. C'est-à-dire quand il y a des espèces qui coexistent sans qu'il y ait absolument aucun avantage et aucun désavantage, ni pour l'espèce A, ni pour l'espèce B. Ça, c'est la ligne de base de ce que je viens de dire, si tu imagines un truc qui monte, un peu une sorte de gradation. Et donc là, il y a zéro avantage. Et au-dessus de ça, la ligne du dessus qui est au top, enfin au top, j'y mets aucune valeur en fait, qui est, on va dire, au-dessus de notre, de notre description, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mutualisme, où pour l'espèce A et pour l'espèce B, il y a un avantage pour l'une et il y a un avantage pour l'autre. Exemple, le corail. Dans le corail, tu vois, tu as le polype, qui est un petit animal, et il héberge une algue. Et en fait, tu vois, il s'échange le gîte et le couvert. C'est-à-dire que le polype fournit le gîte et l'algue fournit l'oxygène. Enfin, tu vois, et donc, il y a des échanges comme ça entre eux. Un autre type de cette coopération, de ce mutualisme, dans certains cas, quand ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre, eh ben, on appelle ça la symbiose. Bah, le corail est une symbiose, celui que j'ai dit avant. Il y a aussi le microbiote. Alors, on a du mal à s'en rendre compte, mais on a tous, enfin, toi sans doute moins que moi, mais moi qui pèse 85 kilos, j'ai entre 2 et 3 kilos de bactéries à l'intérieur de mon ventre. Toi, tu en as sans doute entre un peu moins, autour de 2 kilos. Donc, effectivement, et ces bactéries nous sont essentielles. Elles nous aident à dégrader tout notre bol alimentaire, etc. Et elles ne pourraient pas vivre sans nous, ces bactéries.
Enfin, et inversement.
Donc, c'est une symbiose. Donc, tu vois, résumer les rapports du vivant à la compétition, c'est une lourde erreur, en fait. C'est ne pas voir la bigger picture dans laquelle on vit. Et tout ce bouquin, c'est pour essayer de donner une image, encore une fois, très imparfaite et très parcellaire de cette bigger picture qu'on a oubliée.
Il y a le commensalisme, c'est un mot que j'ai découvert dans ton livre. C'est quand, il me semble pas que tu en aies parlé, c'est quand il y a un gagnant et zéro perdant, donc juste des pique-assiettes et des trop gentils. Par exemple, les moineaux domestiques qui viennent manger dans nos assiettes les restes. Tu écris « L'entraide est la grande force du vivant, bien loin de la compétition, qui certes existe, mais qui n'a pas l'importance qu'on veut bien lui donner. » Page 132. Et j'avais bien aimé aussi une citation de ton livre du botaniste Jean-Marie Pelt qui dit « La coopération crée, la compétition trie ». Et en effet, les deux sont évidemment très utiles.
Ouais, si tu me permets de rebondir. Alors Jean-Marie Pelt, c'était un botaniste à la base des années, on va dire, plutôt 90. Il est mort, Jean-Marie Pelt. C'était un enchanteur, tu vois, un peu comme Jean-Claude Amezen, un peu comme Gilles Boeuf, un peu comme les grands enchanteurs, passeurs, je ne sais pas comment dire, vulgarisateurs, qui sont un peu mes modèles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques pur jus qui lui cherchent un peu des poux dans la tête, à raison. Il a dit des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, et mais tout ça n'est pas très grave. Il n'empêche que sa phrase est très belle et elle dessine une sorte de principe général qui est très juste. Effectivement, la compétition trie, mais la coopération crée. Bah, tout est dit. Mmh. Tout est dit.
Ouais, c'est très beau, j'aime bien. Toujours avec cette idée de voir cette big picture, cette plus grande vision du vivant, j'ai beaucoup aimé ce que tu expliques sur le parasitisme. Avec l'idée fausse numéro 10, le parasitisme est un fléau pour le vivant. Peux-tu nous expliquer à quoi sert le parasitisme ?
Oui, l'exemple que je donne dans le livre, c'est un exemple qui est frais, qui secoue tout le monde, qui fait peur à tout le monde, c'est l'exemple des punaises de lit. Tout le monde déteste les punaises de lit, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais à quoi servent les moustiques ? À quoi servent les punaises de lit ? Mais vraiment, on devrait tous les exterminer, on ne s'en porterait que mieux. » Là encore, c'est ne pas connaître, c'est ne pas faire de place, et je trouve ça dramatiquissime, à ce que j'ai appelé la bigger picture, c'est-à-dire au monde dans lequel on vit. Pour en rester sur les punaises sont une des réponses du vivant au fait que l'homme prend aujourd'hui une place qui est écrasante dans le monde. Je rappelle que l'homme et son bétail, l'homme et tous les animaux qu'il élève dans des conditions que je qualifie de concentrationnaires, ce qui choque certaines personnes, mais on peut dire horrible si ça convient à tout le monde, l'homme et son bétail pèsent en biomasse 95% des mammifères sur Terre.
Incroyable.
C'est-à-dire que baleines, éléphants, tout ça, c'est 5%. Toutes les espèces sauvages, c'est 5%. Donc tu vois le truc. Donc une des réponses du vivant, qu'on peut aussi considérer comme un ensemble, comme une espèce de symbionte, tu vois, générale, c'est la fameuse hypothèse Gaïa, eh bien, une des réponses du vivant à cet envahissement, à cet écrasement de l'humain sur Terre, qui est de loin, de très loin, la pire espèce envahissante que le monde ait jamais connue, hein, loin devant les chats, les rats, même les moustiques, tout ce que tu veux, eh bien, une des réponses, c'est par exemple les punaises. C'est-à-dire que le fait que nous vivions si nombreux, que nous voyagions autant, entassés dans des villes, font que, bien sûr, c'est une bénédiction pour des insectes comme les punaises. Donc voilà, à partir de là, bien sûr, ça nous gêne, mais on peut aussi... Enfin, c'est comme le Covid. Tu vois, comment est arrivé le Covid ? Est-ce que c'était une punition divine ? Ou est-ce que c'est à cause de nos pratiques qui consistent à ramener ce que font les Asiatiques, mais ce qu'on fait aussi en Europe, hein, ils ont bon dos, les Chinois et les Asiatiques. C'est-à-dire d'aller de plus en plus profond dans les forêts pour ramener des espèces sauvages, pour les bouffer, pour faire des plats incertains et grotesques, et les entasser dans des marchés. C'est comme ça que le Covid nous est arrivé. Parce que le réservoir, c'était des chauves-souris, mais du coup, qui ont transmis des virus qui se sont adaptés à un hôte intermédiaire, qui nous sont ensuite revenus. Le pangolin a longtemps été soupçonné, aujourd'hui il a été innocenté, ce qui n'empêche pas qu'il soit le mammifère le plus braconné du monde. Mais voilà, enfin, en résumé, ce sont toutes nos conneries, parlons clairement, toutes nos façons de vivre qui sont très peu remises en question aujourd'hui, le fait de voyager. Tu vois, on avait réussi à les chasser, les punaises, au fil des siècles. Elles étaient assez rares. Mais là, ces dernières décennies, elles sont revenues en masse à cause de nos façons de vivre. On les a chassées par la fenêtre, elles sont revenues par nos valises, les punaises.
Et je dirais aussi par notre méconnaissance. Et par exemple, moi, quand j'ai lu ton chapitre à ce sujet, ça m'a fait penser à la renouée du Japon, qui est une plante qui pullule chez nous. Et donc, notre réponse en tant qu'humain, c'est de l'éradiquer, de la couper. Alors que c'est une plante bio-indicatrice des métaux lourds dans le sol. Et donc, quand on comprend ça, on se dit peut-être qu'elle peut nous aider justement à traiter le sol. Tu écris, page 63-64, « Presque une espèce animale sur deux est un parasite. Les parasites sont partout. Ce n'est ni bien, ni mal, ni beau, ni moche, ni vertueux, ni condamnable. De la même manière que le vivant a besoin, entre autres, de prédateurs et de proies pour la régulation des populations, on a besoin des parasites. Les parasites obligent leur hôte à être plus adaptatif. C'est une réponse du vivant au même titre que l'entraide et la concurrence. » Et je trouve que c'est très chouette de prendre conscience de ça.
Ouais, si tu me permets, juste pour ajouter que, tu vois, par exemple, sur France Culture, j'ai fait une émission sur les abeilles sauvages. Tout le monde connaît l'abeille à miel, mais personne ne sait qu'il y a 1000 espèces d'abeilles en France, 2000 en Europe, 20 000 dans le monde. Sur ces 1000 espèces françaises, une sur cinq est une abeille coucou. C'est-à-dire une abeille qui pond ses œufs dans, en gros, les nids des autres, qui sont le plus souvent, 7 espèces sur 10 sont solitaires et vivent dans un trou du sol. Hein. Les abeilles, elles sont loin de toutes vivre en colonie, tu vois. Et voilà, c'est juste pour dire que voilà, une sur cinq est une espèce coucou. Et donc effectivement, le parasitisme est absolument partout. C'est ni bien ni mal. Et ils ont aussi un rôle d'évidence. Ils régulent des populations, les parasites. Ils sont pas là, et tu vois, c'est pas une punition divine. Ça serait vraiment idiot de ne voir ça que comme ça.
Dans ton livre, tu expliques pourquoi le vivant est mal fait et cruel, mais aussi pourquoi il est bien fait avec plein d'exemples passionnants. Le vivant, c'est aussi des émotions, du rire, du rythme, du son, de l'amour. Prochaine idée fausse numéro 38, le rire, entre autres, est le propre de l'humain. Peux-tu nous expliquer les mécanismes du rire parmi le vivant et nous donner un exemple d'animaux qui utilisent le rire ?
Oui, alors avant, je voudrais préciser un peu ce que tu dis. Quand tu dis que je dis que la nature est belle, moche ou cruelle, ce sont justement... Les titres de chacun des chapitres sont des idées fausses.
Oui, oui.
Donc, dire ça...
Oui, oui, c'est faux.
Je le précise, ouais, je sais bien que tu as bien compris,
tu
mais
sais bien.
Je le précise.
Tu fais bien de dire.
Dire ça, c'est... Voilà, ça serait une erreur. C'est justement de l'anthropomorphisme. La nature n'est ni rien, n'est ni belle, ni moche, ni cruelle, ni généreuse. La nature est, comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, c'est déjà grandement suffisant. Pardonne-moi, du coup, c'était quoi ta question ?
Le rire.
Alors, il se trouve que en plus des livres, parfois on me demande de faire des articles sur un certain nombre de choses. Et là, je rends hommage à La Tribu du Vivant, qui est un magazine auquel je collabore, qui m'a demandé de faire un dossier sur le rire. Le rire, c'est un peu pareil. Il y a une étude très sérieuse, récente, qui a expliqué que de nombreuses espèces riaient. Alors bien sûr, elle ne rit pas en s'esclaffant comme le font les humains et en produisant du son et avec les lèvres qui s'écartent, etc. Mais il y a plein d'espèces, des éléphants aux pies australiennes, en passant par toutes sortes d'autres, de mammifères ou d'autres oiseaux, etc., qui rient. Je renvoie au bouquin pour avoir une liste plus exhaustive. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire de rire, c'est son histoire. C'est-à-dire que chez les primates, en tout cas chez les primates, mais sans doute chez d'autres animaux, le rire provient du recyclage d'une attitude de crainte, de peur et de menace. Et chacun va s'en rendre compte, quand un chien veut se faire menaçant, il montre ses dents, il retrousse les lèvres et il montre ses dents. Eh bien, on pense que pour les premiers primates, le rire serait un signe de peur et de menace recyclé, puisque les primates aussi, je pense aux chimpanzés, quand ils sont stressés, je suis en train de le faire, là, tu vois, je te vois sourire, montrent leurs dents. Et c'est une manière de dire, attention, si tu m'emmerdes trop, je vais te mordre. Tu vois, et c'est drôle parce que finalement, c'est une sorte de je dépose les armes à l'entrée du saloon, le fait de sourire. En tout cas, il pourrait venir de là. Et je trouvais ça assez fascinant de raconter ça. Que...
Et c'est ce que tu es en train de faire ? Tu te sens stressé ? Tu montes les dents
de ah non, non, alors je dois avouer que c'est
là, t'es
c'est...
dans la version moderne.
Non, je dois quand même dire aux auditeurs que c'est une interview sur du velours. Hein. Apparemment, je ne suis que ton 7e client. Et je dois avouer que c'est très pro, vraiment, tout ce que tu fais. Je le dis avec beaucoup d'admiration.
Merci. Tu écris dans ton livre au moins 65 espèces animaleries, des oiseaux comme les perruches, les cassicans flûteurs. Je vous recommande d'aller voir sur Internet, elles sont très élégantes, c'est des pies australiennes. Des mammifères, des chimpanzés aux canidés comme les renards, les chiens, en passant par les éléphants, les écureuils et les otaries. Dans un contexte de jeu, tout cela rit à leur façon. Certains halètent, d'autres sifflent, claquent des babines ou ronronnent. Les éléphants soufflent, les wapitis américains vagissent.
Comme les crocodiles.
Les nestors...
Kea
Queen.
Les Nestor Kea Queen. Oui, alors ça pourrait presque être les serpents qui sifflent sur nos têtes. Hein. Voilà. Les Nestor Kea Queen. Ça, il faudra vraiment garder dans ton montage final, je pense.
C'est Nietzsche qui disait que la vie sans musique serait une erreur. Toi qui comptes plus de 4000 plongées à ton actif, peux-tu nous parler de l'idée fausse numéro 7 ? L'océan est un monde de silence. On entend quoi sous la surface de l'eau, Marc Mortelmans ?
Ah, j'adore ta question, et en plus c'est amené par Nietzsche que j'adore. Cette expression est extrêmement fausse, mais elle vient de ce fameux commandant Cousteau qui a trouvé ce titre pour ce film qu'il a réalisé avec Louis Malle en 1956 et qui a obtenu à l'époque le documentaire du meilleur film aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est un film qui est irregardable. Ce qu'ils font dedans, c'est un message d'espoir que je voudrais donner. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout les documentaires de cette manière complètement conne et aussi cruelle. Et tu vois, malgré tout le bien que je pense du commandant Cousteau, il faut quand même rappeler qu'il a réussi à faire un film, lui, qui a eu la chance, le privilège, mais aussi la charge d'être le premier pionnier des océans à aller dans l'eau. L'histoire retiendra que cette première exploration a été une insulte qui a été faite aux vivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'amusent à harponner des cachalots. Ils en tuent un en lui passant dessus avec l'hélice du bateau. Du coup, il y a tous les gros requins longimanes du coin qui sont attirés et qu'ils massacrent. À un moment donné, ils font un inventaire de récifs avec de la dynamite. Bon, tu vois, ces façons de faire qui étaient celles des premiers explorateurs de l'océan, à qui on doit rendre hommage d'avoir rendu ça possible, mais qu'on doit critiquer pour... C'est vrai, ils auraient pu faire autrement, ils auraient pu être plus respectueux du vivant, et ça raconte aussi quelque chose. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Maintenant, les photographes, les documentaristes se font les plus discrets possibles, et ça, c'est une bonne nouvelle que je tenais à partager avec toi. C'était quoi le début de la...
On entend quoi sous l'eau ?
Ah oui, on entend quoi sous l'eau ? Là aussi, je vais essayer de faire simple. Il y a un chercheur belge que j'adore, Éric Parmentier, qui est pionnier en la matière, qui au début cherchait les espèces qui faisait du bruit sous l'eau, et il a fini par dire que sur 800 familles de poissons aujourd'hui, on cherche les espèces de poissons qui n'en font pas. Les poissons font du bruit avec de multiples modalités. Elles peuvent jouer du tam-tam sur leur vessie natatoire, qui est une poche de gaz qui leur sert à se stabiliser dans l'eau. Il y en a qui font du bruit avec des dents pharyngées. Enfin bref, en gros, ils grincent des dents. Il y a 1000 modalités pour faire du son. Et en fait, c'est très connu. Les pêcheurs, par exemple, y compris en Gironde, pêchent le maigre, donc c'est de la famille des cyénidés, en collant leur oreille sur le fond de leur barque. Parce que, voilà, au moment de la reproduction, ces poissons font beaucoup de bruit. Il faut aussi que tu saches que, tu l'as lu sans doute dans le livre, qu'à une époque, je crois que c'était dans les années 80, il a failli y avoir une guerre entre la Suède et la Russie parce qu'il y avait des bruits bizarres dans l'eau qu'on prenait pour des sous-marins russes. Et en fait, c'était des pets de harengs, ce qui a fait l'objet d'un prix Ig Nobel. Je ne sais pas si tu connais ce prix Ig Nobel, qui est une sorte de satire de recherche sérieuse et voire prometteuse, mais qui sont comiques. Et ces histoires de pets de harengs a fait l'objet d'un prix Ig Nobel, qui est décerné chaque année. Et voilà, mais le son de loin le plus fort, le plus puissant du vivant, bah tiens, je te pose la question, est-ce que tu te souviens ce que je dis dans le bouquin ?
Je me souviens plus.
Eh bien, le son le plus puissant du vivant de loin, c'est celui du cachalot, qui émet des clics à 230 décibels, à 1 mètre. Ce genre de clics sont au-delà des 194 décibels, c'est-à-dire ce ne sont plus des sons, mais des ondes de choc qui tueraient un homme à un mètre. Ça n'est évidemment jamais arrivé. Ce sont des clics qui servent au cachalot à abattre des proies, ce qu'ils parviennent très bien à faire grâce à cet outil incroyable.
J'adore. Pour finir cette première partie, j'avais envie de finir sur l'amour qui fait tourner ce monde, dit-on.
Pourquoi tu dis dit-on?
Dit-on, bah je sais pas.
Parce que toi, tu n'as pas la chance, tu n'as pas eu la chance de le vérifier. Je te charrie, bien sûr.
Qu'en est-il de l'idée fausse? Donc c'est une idée fausse hein, que tu expliques. 39, l'homosexualité n'existe pas dans la nature. Que peux-tu nous dire sur l'amour, l'homosexualité ou la sexualité dans la nature, en quelques mots, quelques exemples?
Là encore, il y a une histoire de bigger picture, de plan d'ensemble, je ne vais pas toujours dire cet anglicisme, que la plupart des gens ignorent, et c'est bien dommage. Toutes les sexualités, toutes les pratiques, toutes les déviances, toutes les parentalités sont dans le vivant, et bien plus que chez l'humain. Donc, tous ceux qui disent que l'homosexualité n'existerait pas dans la nature parce que, entre guillemets, elle ne servira à rien, se mettent l'omoplate dans l'œil jusqu'au doigt. Bien sûr que l'homosexualité existe, je donne plein d'exemples dans le bouquin, chez des espèces aussi variées que les oies, que chez les manchots. Enfin voilà, les modalités de parentalité sont infinies, il peut y avoir deux mâles, deux femelles pour élever des jeunes. C'est pas la règle générale, mais ça arrive, ça existe dans des pourcentages qui sont divers selon les espèces. Tu sais, c'est vraiment une erreur cardinale dans mon métier, et dans celui des scientifiques, et même pour le grand public, que de cette fameuse pratique de l'anthropomorphisme qui constitue un des 10 chapitres du bouquin. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 75 chapitres, c'est pas tout à fait juste. Il y a 9 chapitres qui sont constitués de 75 entrées. Je voudrais pas que les gens croient que c'est des chapitres. En fait, les entrées font 2 ou 3 pages chacune. Moi, c'est ce que j'appelle un bouquin de chiottes, je le dis avec un grand sourire. C'est typiquement le genre de livre que tu peux ne pas lire de A à Z. Tu peux lire une idée dans le bus, et même tu peux en lire 2-3 dans le bus dans un trajet d'un quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire?
Carrément. Je pense que c'est vraiment un livre qu'on peut poser, reprendre, qui nous accompagne, qu'on vérifie une information, on illustre.
D'où le bouquin de chiottes, c'est-à-dire
ouais,
que tu peux lire aux toilettes.
J'aurais pas dit ça,
à chaque fois que tu vas. Non, mais moi j'aime bien dire ça.
D'accord.
Non, parce que j'aime bien tout ce qui est pratique. Et justement, aller à rebours de, tu vois, de cette espèce d'élégance qu'on voudrait se donner pour ci ou ça, alors qu'en fait, tu vois bien à travers tous les exemples que, tu vois, il y a justement une entrée sur les déjections des animaux. Il y a plein de gens qui trouvent ça sale et dégueulasse et tout ça, alors que dans le vivant, il n'y a pas de déchets, contrairement à nous. Tu vois, alors, tu vois, tout est source, tout est ressource pour d'autres espèces qui vivent autour. Alors que nous, c'est aussi un chapitre assez malheureux où j'explique que nous, on prive le vivant de notre urine, de nos fesses, de notre caca, pour parler concrètement. Mais le dernier doigt d'honneur qu'on fait au vivant, c'est au moment des grands adieux. C'est-à-dire que quand on meurt, on a le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire être incinéré, 230 kilos de carbone, ou être enterré en tout. Tu vois, ça provoque 830 kilos de carbone. Alors qu'on pourrait tout à fait composter nos corps. C'est une pratique qui serait très salutaire aux vivants. Mais alors que 6 Français sur 10 se disent pour une mort régénérative, eh bien, l'immense majorité de nous autres, quand on meurt, eh bien, c'est un corps, un problème qu'on impose aux vivants qui nous a prêté absolument tout ce qui compose nos corps. Toutes nos molécules sont prêtées par le vivant. Elles devraient pouvoir retourner au grand cycle de la vie. 6 Français sur 10 se disent pour. Mais alors, par contre, à l'heure de composter leur corps, ben là, je pense qu'il y a encore plusieurs décennies qui seront nécessaires pour franchir ce pas qui est encore le produit tu vois, d'une bête posture liée à plein de choses, la religion, le fait de sacraliser les corps, l'homme, etc. Alors que la meilleure manière de le sacraliser, ça serait de rendre au vivant ce qu'il nous a prêté, tout simplement. Moi, j'espère que quand je mourrai, mon corps pourra être composté. J'espère que des arbres pourront pousser grâce à mes molécules, voilà.
C'est Hugues Maury qui dit qu'il faut réensauvager tout ce qu'on peut. Et je trouve que nos cimetières sont particulièrement déprimants. Je me dirais, on pourrait faire des réserves naturelles sublimes où on passe le reste de notre vie, enfin de notre mort dans ces espaces-là. C'est triste à mourir,
c'est
selon
ce
moi.
C'est beau ce que tu dis, le reste de notre mort.
Et je crois que tu as fait un épisode, je les ai pas encore écoutés, sur
l'humusation.
C'est ça, hein, il me semble.
Ouais.
C'est ce retour à la terre.
C'est exactement ça. L'humusation, c'est le nom qu'on donne à ce compostage humain, parce que tu imagines bien que compostage humain, ça. Et je fais partie d'une asso que je vais citer. Je fais partie d'une asso qui a un nom fantastique qui s'appelle Humo Sapiens. Humo Sapiens, tu vois la référence à humus. En fait, ce qu'il faut savoir, tu vois, c'est que de manière assez étonnante, le mot humanité a la même racine qu'humus. En gros, la terre. Tu vois, tu es poussière et tu redeviendras poussière. On le porte dans notre beau nom d'humain. C'est la même racine indo-européenne qui a présidé à la création de ces deux mots. C'est quand même un symbole incroyable. Et pourtant, ça, tu vois, ça fait partie des choses que j'aime rappeler.
Trop bien. Du coup, pour finir sur donc, ce chapitre sur l'amour, on apprend vraiment des choses incroyables. Le blob aussi, moi j'ai appris qu'il existait une espèce où il y avait plus de deux types de comment on appelle ça ?
Deux types sexuels. C'est-à-dire
voilà,
que c'est chez l'humain, il y a monsieur et madame, il y a le mâle et la femelle, chez beaucoup d'espèces aussi. Chez le blob, il n'y a pas deux, mais 720 types sexuels qui ne sont pas tous compatibles. Donc, ce qui est un gage de brassage des gènes qui est autrement plus, je ne sais pas comment dire, plus productif que nous.
Passionnant. Nous sommes donc assez étrangers à ce vivant et pourtant nous dépendons de lui comme un maillon à part entière de cet écosystème. Tu parlais de l'hypothèse Gaïa. Les insectes pollinisent ce qu'on mange, les vers de terre et les champignons recyclent la matière organique qui nourrissent nos cultures, les arbres infiltrent l'eau en profondeur dans nos nappes. Notre eau potable, c'est deux tiers issue des nappes phréatiques. La nature nous rend des services écosystémiques, c'est l'idée fausse numéro 45 de ton livre. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire ? Pourquoi tu la qualifies de fausse dans ton livre ?
Alors là, je dirais, c'est on est à la frontière de la tétrapilectomie, c'est-à-dire du coupage de cheveux en quatre. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que il y a des scientifiques inspirés qui, il y a une cinquantaine d'années, ont décidé de combattre le mal par le mal. Et d'expliquer à celles et ceux qui nous dirigent et à celles et ceux qui dirigent les entreprises que la nature, tu as prononcé le mot nature, on aurait pu y revenir, mais dès qu'on parle de nature, c'est ne pas se mettre dedans, c'est la grande différence avec vivant. Bref, ces pionniers, un peu malins, un peu roublards, ont décidé de combattre le mal par le mal et d'expliquer aux décideurs que la nature, qu'on néglige tellement, nous rend des services écosystémiques qui sont calculables, qui sont quantifiables et qu'on peut associer à de l'argent puisqu'il n'y a que ça qui fait tourner le monde.
Après, c'est assez efficace. Je dois avouer que quand on met des chiffres sur ces fonctionnalités, tout de suite, quand même, il y a des oreilles qui se tendent. Donc, c'est efficace.
Et ceux que ça blesse, et c'est là que je dis que c'est un peu de la tétrapilectomie, mais je les respecte parce qu'ils sont autrement plus sages et renseignés que moi sur ces sujets. Mais ceux que ça blesse, c'est ceux qui disent ou qui ressentent que faire ça, c'est encore chosifier le vivant, c'est encore le domestiquer, c'est encore l'asservir et encore lui soutirer des services. Donc c'est à ce niveau-là que ça coince. Et d'ailleurs, l'IPBES, que personne connaît, mais qui tout le monde connaît le GIEC, mais personne connaît l'IPBES. C'est un peu le GIEC, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'IPBES. C'est un organisme international qui élabore toutes sortes de rapports qui nous aident à nous repérer dans la sixième extinction de masse en cours. Et bref, l'IPBES, dans ses dernières réunions, recommande plutôt d'utiliser cette nouvelle expression, les contributions de la nature. Ce qui est sensiblement différent. Je redis que ça fait un peu tétrapilectomie, il y a plein de gens à qui ça va passer au-dessus de la tête, mais tout dépend de la façon dont on s'envisage et dont on envisage le vivant autour de nous. J'ai fait cette distinction entre nature et vivant. En effet, il y en a qui vont dire qu'on s'en fout, que c'est la même chose, idem pour biodiversité. Pourtant, chacun de ces trois mots recouvre des réalités qui sont différentes et qui en disent long sur ton appréciation du monde et de comment tu vis dans ce monde. Tu vois, est-ce que tu es cette espèce d'être qui a pignon sur rue et qui a le droit de vie et de mort sur tout le vivant qui l'entoure ? Dans ce cas-là, tu vas parler de nature. Est-ce que tu considères que tu en fais partie ? Dans ce cas-là, tu vas plutôt parler de vivant. Ou est-ce que tu fais des bilans comptables et des choses assez technocratiques ? Et dans ce cas-là, tu vas parler de biodiversité, qui est un terme un peu critiqué pour ça aussi, si tu veux. C'est vrai que c'est un terme qui est très associé à des pourcentages, à des nombres, etc. Donc c'est un terme qui est plus froid que vivant, qui est un mot que nous a offert, enfin en tout cas que propose Baptiste Morisot et qui en ce moment, enfin tous les spécialistes dans mon genre, enfin je me retire parce que moi je ne suis pas un spécialiste, mais tous les gens comme moi, en tout cas tous les gens qui s'intéressent, préfèrent parler aujourd'hui de vivant pour les raisons que je viens de dire.
Juste un petit exemple de contribution du vivant. La capacité d'épuration des zones humides fournissent par exemple un service évalué à 2000 euros par hectare. Cette idée de service écosystémique, ça me fait penser un peu au businessman dans Le Petit Prince. Je ne sais pas si tu vois ce businessman, c'est un gros monsieur avec un cigare et il se revendique sérieux. Moi, je suis sérieux, je compte à longueur de journée. C'est un peu un concept pour convaincre les plus cartésiens de la planète de protéger ce vivant. C'est assez efficace quand même, malgré tout. Quand on parle de sous, ça parle tout de suite. Mais on rappelle, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Très rapidement, parce que le temps défile, Marc Mortelmans, est-ce que tu peux nous partager un chiffre parmi les chiffres de ton livre pour attester à quel point on est en train de tout éradiquer sur la planète ?
Il y en a beaucoup. J'en ai dit un tout à l'heure. L'ensemble de l'humain et de tous ces animaux qu'il élève dans des conditions horriblissimes pour ses besoins, voire son amusement, représente 95% des mammifères sur Terre. Donc ça dit tout. Mais ça, j'ai déjà dit.
En lien avec cette même étude dont tu parles, j'ai vu qu'il y avait la masse des chiens sur Terre est aussi importante que la masse de tous les mammifères terrestres.
Ouais.
Et je trouve ça juste incroyable. Ouais. Je me dis, mais c'est fou.
La masse des vaches explose celle de toutes les baleines réunies. Mais je pense que les chiffres les plus impressionnants que j'ai envie de te donner, de donner à celles et ceux qui nous écoutent, je les dis maintenant, en fait. Et c'est, pour le coup, c'est le cœur des conférences que je fais autour de ce livre. C'est en fait, si on pesait tout ce qui vit sur Terre, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat de ce qu'on appelle la biomasse ? Tu vois, et ça, je trouve, c'est effarant. Si je te pose la question, tiens, on va voir, on va sourire.
Bah, j'ai les chiffres.
Vas-y.
J'ai vu dans ton livre, et ça m'a... J'ai trouvé ça incroyable, qu'en 2020, la biomasse anthropique, donc créée par les humains, est égale à la biomasse vivante. Et qu'en 2040, si on continue comme ça, elle sera le double. Tout ce qu'on va créer en tant qu'humain sera le double de la biomasse. Donc en fait, on n'a plus une terre bleue ou une terre verte. On a une terre grise de nos constructions d'humains.
Ouais.
Enfin, si je peux me permettre d'être un peu dramatique. Et je trouve ça assez incroyable, en fait.
Ouais. Alors effectivement, tu as dit un autre chiffre important. En 2020, il y a un cap qui a été franchi dans l'histoire de l'humanité. L'ensemble de tout ce qu'on construit, nos bâtiments, mais aussi nos téléphones portables, le pull que tu portes, le micro avec lequel on enregistre, etc., etc., etc. La masse de tout ce qui est fabriqué, de tous les objets fabriqués par l'humain, de toute leur construction, dépasse la biomasse de tout le vivant. Et dans tout le vivant, il y a tous les arbres, il y a tous les coraux, il y a beaucoup de choses, tu vois.
Et il y a nous aussi.
Qui sont très lourdes. Et il y a nous aussi. Donc, mais les chiffres que je voulais donner,
oui, dis-moi,
c'est que si on s'interroge par groupe du vivant, eh ben, ce qu'il y a de plus lourd sur Terre, de très loin, ce sont toutes les plantes. 83% du vivant, de la masse du vivant, ce sont les plantes. 12,5-13%, ce sont toutes les bactéries, dont les 2% qu'on a tous les deux dans nos ventres, notre fameux microbiote dont on parlait au début de l'émission. Et ce qui est fou, alors ensuite, tu vois, ça continue à baisser. Il me semble qu'il y a 6% de champignons, c'est énorme. Après, il doit y avoir les arthropodes, beaucoup. Bon, j'ai pas tous les chiffres en tête. Et ce qui est fou, c'est que l'humain plus tous les animaux, l'humain plus tous les animaux en fait, parce qu'on est évidemment des animaux, pèsent 0,4% du vivant. Ben, je pense que tout est dit. 83% d'arbres, 0,4% d'animaux, d'arbres et de plantes. Enfin, tu vois, c'est quand même fou. Bactéries, tu vois, donc, que personne ne voit jamais, donc, que tout le monde ignore tout le temps, 13% de tout le vivant. Enfin,
j'ai appris ça dans ton livre, ouais. C'est impressionnant. Tu réponds quoi aux gens qui disent que c'est la faute des Chinois et des Indiens ?
Que quoi c'est la faute ?
Que tout ça, que de toute façon, la France, on pèse pour rien, ça sert à rien d'agir, c'est la faute...
Bah, je pense que ça sera un peu l'expression clé de notre enregistrement. C'est vraiment ne pas avoir le plan d'ensemble, la fameuse bigger picture en tête. Et je trouve que les Asiatiques en général, que ce soit les Indiens ou les Chinois, ont bon dos. Si je prends, tu vois, un exemple pour montrer à quel point les Européens sont donneurs de leçons et hypocrites... Tout comme le reste des Occidentaux, hein, je pense aux États-Unis aussi. Tu m'entendras jamais les qualifier d'Américains parce que j'ai vécu 6 ans au Chili et un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est mais et nous on est quoi ? Mes amis chiliens m'ont dit quand tu dis que les Américains s'appellent Américains en parlant des États-Unis, nous on est quoi ? Bon bref, tout ça pour dire que je prends un exemple. En matière de finning, c'est-à-dire de charcutage des ailerons de requins, tu sais ce truc hyper cruel qui consiste à pêcher des requins, à leur couper à vif les ailerons et à les rejeter. Vers une agonie atroce dans l'eau, enfin là encore, ça, enfin, tu vois, c'est absolument terrifiant. Eh bien, il y a un chiffre extraordinaire qui dit que plus de 40% des ailerons de requins qui sont vendus sur les grandes places asiatiques que sont Hong Kong, Singapour et d'autres proviennent de l'Union européenne. C'est quand même fou, tu vois. Ces Européens dont nous faisons partie, dont je fais partie, alors la France s'est un peu calmée en la matière, les champions de ça, ce sont les Espagnols. Et tout ça se fait avec des subventions européennes en plus. Qui a certes édicté, alors après je ne vais pas trop rentrer dans le détail, tu as déjà dit qu'on avait dépassé le cadre de l'émission, mais il se trouve que l'Européenne a interdit le finning. Donc ce que font les Européens qui sont toujours malins, et les Occidentaux en général, et même les humains en général, ils contournent cette règle. En fait, la loi oblige les bateaux à ramener les requins fins attached à leur corps, c'est-à-dire les ailerons attachés, c'est-à-dire entiers. En gros, tu peux en stocker moins dans le bateau. Parce que tu vois, le cynisme fait que. C'est ça le feeling. C'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on les rejette à l'eau. C'est pour que ça prenne moins de place et entasser les ailerons dans les cales. Donc tu vois, une manière qui a été trouvée pour réduire les ravages, c'est ça. Mais en fait, ce que font les Européens, c'est qu'à peine ils arrivent à quai, en fait, eh ben, tout de suite, ils leur coupent les ailerons et ça part sur les places asiatiques, tu vois. Donc il y a toujours des moyens. Et donc les rotations sont supérieures, ce qui fait que cette règle a été contournée. Donc elle est inefficace. Donc tu vois, voilà, cet exemple à lui seul raconte le cynisme de l'humain en général. Hein, et bien sûr que l'Européen vaut pas mieux que le Chinois, qui vaut pas mieux que l'Indien et qui vaut pas mieux que l'Etats-Unien.
On a tous notre rôle à jouer dans cette grande transition.
Y compris celles et ceux qui nous écoutent, tu vois. En fait, ce qui m'énerve, c'est toujours que ce soit la faute de l'autre. En matière de jardin, de, et ça, pour le coup, je ne suis pas le seul à dire ça, hein, de déplacement, de prendre l'avion, de tes vacances, de ce que tu bouffes, de comment tu te déplaces, des vacances que tu choisis pour toi et tes enfants. Nanana. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, tu vois. Mais bien sûr que chacun peut et doit faire attention à ce qu'il fait. Pour le coup, je ne suis pas le seul à le dire. Mais tu vois, il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est le fait de dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas le Chinois qui est si lointain et si mal connu.
En introduction, je parlais de ces heures où on se laisse guider par ta voix et par tes podcasts. Tu as fait toute une série sur les requins qui sont vraiment passionnantes. On apprend plein de choses, notamment qu'il y a des requins en Méditerranée qui vont pas très bien. Et tu as interviewé notamment une association qui les protège et c'est vraiment passionnant.
Aileron, ouais.
Donc je recommande ces podcasts en particulier. Merci beaucoup Marc. La première partie se termine, une première partie riche d'informations passionnantes sur le vivant et ses difficultés actuelles. Je te dis à très vite pour la deuxième partie sur les actions citoyennes.
Grand merci à toi, salut Chloé.